Chapitre 12. Nous avons passé plus de temps que prévu dans cette salle, déclara l'aigle après avoir utilisé son appareil de diagnostic. Nous devrons modifier notre parcours. Ils étaient assis côte à côte dans le véhicule. Est-ce une façon détournée de me dire que mon cœur va flancher avant le moment prévu? Non, je n'avais pas envisagé ce survol de la France et de la cité des octopodes. C'était merveilleux. J'aimerais y retourner avec le docteur Bleu pour guide. Vous avez préféré cela au planétarium? Je dirais simplement que tout est fantastique et que j'ai obtenu la confirmation qu'il s'agit du lieu idéal où...
Elle ne termina pas sa phrase.
Pendant que nous étions sur cette plateforme, il m'est venu à l'esprit que la mort n'est pas simplement l'arrêt de la pensée, mais aussi des sensations. Je m'étonne de ne pas en avoir pris conscience plus tôt.
Il y eut un court silence.
Alors, mon ami, ajouta-t-elle gaiement, où allons-nous à présent? Dans la section technique, où vous verrez des modèles réduits de ce point nodal, d'un transporteur et d'autres vaisseaux. Ensuite, si nous en avons le temps, nous visiterons l'exposition biologique. Certains de vos petits-enfants extra-utérins vivent dans un environnement de type terrestre, aménagé dans ce secteur, non loin d'un habitat abritant une communauté de ces anguilles que nous avons croisées autrefois au point nodal de Sirius. Vous pourrez en outre visiter une galerie taxinomique où sont comparées les caractéristiques physiques de toutes les espèces spatio-pérégrines étudiées dans cette partie de la galaxie. Voilà qui s'annonce passionnant,
dit-elle en riant.
Et comme le temps presse, j'aimerais commencer par le vaisseau à bord duquel vivront Patrick, Naï et Galilée.
L'aigle fit repartir leur véhicule. Il n'avait pas commenté le diagnostic fourni par son appareil, et la peur réapparut. Il se promenait sur la surface plane du transporteur modèle réduit.
« Il est à échelle du 1/64e, » dit l'aigle. « Cela devrait vous permettre de vous faire une idée de ses dimensions véritables. »
Elle regarda au loin.
« Seigneur, cette maquette doit avoir près d'un kilomètre de long. Vous y êtes presque. L'original en mesure approximativement 40/15. » Et chacune de ces bulles contient un environnement différent? Oui. L'atmosphère et le climat sont contrôlés par les modules qui forment des excroissances sur leur pourtour et par des installations enfouies dans la coque. Et la rotation de chaque habitat engendre une gravité idéale. Des cloisonnements permettent d'isoler les espèces. Tous les résidents de l'étoile de mer vivent sous le même dôme, mais les divers peuples sont séparés les uns des autres.
Ils suivaient un chemin entre les centrales atmosphériques et les bulles. Nicole s'arrêta pour en examiner une d'à peine 5 mètres de hauteur.
Certaines sont trop petites pour recevoir un nombre important d'individus. Nous les réservons à des espèces spatio-pérégrines minuscules. L'une d'elles ne mesure que quelques millimètres. Ces plus gros vaisseaux spatiaux sont moins volumineux que notre véhicule.
Nicole essaya d'imaginer des fourmis intelligentes occupées à construire un cargo interstellaire et sourit.
Les transporteurs se déplacent-ils constamment d'un point nodal à l'autre? Ils y font escale lorsqu'il n'y a plus d'occupants dans une bulle et qu'il convient de la réaménager. Comme Rama. En un certain sens, mais avec des différences importantes. Les espèces embarquées à bord d'un appareil de type Rama font l'objet d'une surveillance constante. Nous reconstituons leur milieu d'origine le plus fidèlement possible afin de pouvoir les observer dans un cadre naturel. En revanche, nous ne récoltons plus d'informations sur les créatures qui vivent dans un transporteur, et c'est pourquoi nous nous abstenons d'intervenir.
Hormis pour les empêcher de se reproduire. À ce propos, les stérilisés seraient à vos yeux plus humains, si ce terme peut convenir, que les éliminer?
Nous le pensons.
Ils avaient atteint une fourche du chemin. Sur la gauche, le passage rejoignait les rampes, donnant accès aux autres salles du module de la connaissance.
« J'ai vu ce que je désirais, »
dit Nicole.
« Mais j'ai une dernière question à vous poser. »«
Allez-y. »
« En supposant que Saint-Michel m'ait fait une description exacte de la finalité de Rama et des points nodaux, vos études ne sont-elles pas faussées par votre présence et vos interventions ?»«
Que tout cela ait une légère influence est indéniable. C'est l'équivalent du principe d'incertitude de Heisenberg qui s'applique à la physique. » L'observateur agit toujours sur ce qui est observé. Mais le moniteur galactique en tient compte, et nous respectons des règles qui minimisent notre impact sur l'évolution naturelle.
Je regrette que Richard n'ait pu entendre les explications de Saint-Michel. Elle l'aurait passionné, et il aurait trouvé un tas de questions pertinentes à lui poser.
L'aigle ne fit aucun commentaire, et elle soupira.
Quelle est la suite du programme, monsieur le gentil organisateur?
Vous allez déjeuner. Il y a 2 sandwichs, de l'eau et une tranche de votre fruit préféré dans le véhicule.
Nicole rit et fit pivoter son fauteuil.
Vous avez pensé à tout. Richard ne croyait pas au paradis,
dit-elle, alors que l'aigle terminait un autre diagnostic.
Mais s'il avait pu se créer un au-delà idéal, il aurait comporté un endroit semblable à celui-ci.
L'aigle étudiait les symboles illisibles visibles sur l'écran.
Nous devrions sauter des étapes et aller directement dans le secteur suivant,
annonça-t-il. En levant les yeux vers elle.
Je suis si mal en point.
Cela ne la surprenait guère. Les douleurs ressenties dans sa poitrine, sporadiques avant le survol de la France et de la cité des octopodes, étaient désormais continues. La peur également. Elle s'insérait entre chaque mot et chaque pensée.
Pourquoi redoutes-tu la mort? En quoi le néant pourrait-il être effrayant?
L'aigle lui expliqua qu'il n'avait pas le temps d'aller voir le plan du deuxième secteur. Ils pénétrèrent dans la sphère concentrique et roulèrent pendant une dizaine de minutes.
Ici, nous avons mis l'accent sur les changements apportés par l'évolution. J'ai pensé que la première section vous intéresserait.
Bien que de dimensions plus modestes, cette salle était identique à la précédente. Ils montèrent sur une autre plateforme mobile.
Ce que vous allez voir requiert quelques explications. C'est essentiellement un résumé de l'évolution des civilisations spatio-pérégrines dans une région galactique incluant votre Soleil et environ 10 millions d'autres systèmes. Elle couvre approximativement 1/10 millième de la galaxie, mais elle est représentative de son ensemble. Vous ne verrez ni étoiles ni planètes, seulement des points lumineux qui matérialisent leur position dans l'espace. Chacun d'eux symbolise un système stellaire où une espèce a atteint le stade de la spatio-pérégrination
en plaçant au moins un vaisseau en orbite autour de son monde. Tant qu'une telle activité se poursuit, la lumière continue de briller. Nous allons commencer, il y a environ 10 milliards d'années, peu après la formation de ce qui deviendra la Voie lactée. Compte tenu de la rapidité des changements et de l'instabilité initiale, très peu d'espèces spatio-pérégrines sont apparues au cours des 5 premiers milliards d'années, autrement dit, jusqu'à l'apparition de votre système. Nous visionnerons donc cela en accéléré. Quand la Terre commencera à se former, j'arrêterai la projection.
Après avoir scruté les ténèbres pendant plus de 30 secondes, Nicole demanda
« Avez-vous commencé ? Rien ne se passe. » « Absolument. L'observation d'autres galaxies, dont certaines bien plus vieilles que la vôtre, nous a appris qu'aucune forme de vie ne peut apparaître avant qu'un semblant d'ordre ne se soit instauré. La vie a besoin d'étoiles stables dans un environnement relativement serein et d'une évolution stellaire qui crée les éléments de la table périodique indispensable à tout processus biochimique. Si la matière se compose de particules subatomiques et d'atomes simples, l'évolution ne débouche que très rarement sur la vie, et surtout l'intelligence. C'est seulement quand de grosses étoiles achèvent leur cycle vital et fabriquent des éléments aussi complexes que l'azote, le carbone, le fer et le magnésium, qu'il est possible d'atteindre le stade suivant.
Quelques lueurs papillotaient sous eux, mais au cours des 4 premières minutes, elle n'en répertoria qu'un petit nombre, et une seule brilla plus de 3 secondes.
Nous arrivons au moment de la formation du système solaire et de la Terre,
déclara l'aigle en interrompant la projection.
Je veux être certain de comprendre. Ce que je viens de voir démontrerait que pendant la première moitié de l'histoire galactique, avant l'apparition du Soleil, très peu d'espèces spatio-pérégrines sont apparues dans ce secteur et qu'elles ont toutes eu une existence éphémère. C'est bien cela. Je vais ajouter un nouveau paramètre. Quand un peuple quittera son système pour établir une présence permanente autour d'une autre étoile, ce que les humains n'ont pas encore réalisé, cette dernière prendra la même couleur. Vous pourrez ainsi suivre l'expansion de ces espèces. Je vais en outre ralentir la projection, la réduire à 10 millions d'années par seconde.
Une demi-minute plus tard, un point rouge apparut dans un angle. Après 6 à 8 secondes, il y en avait des centaines. L'ensemble brillait avec tant d'intensité que le reste de la salle, avec ses lumières solitaires occasionnelles, était par comparaison obscur et privé d'intérêt. Puis le centre de l'essaim écarlate s'éteignit, bientôt imité par les petits groupes éparpillés à la périphérie de ce qui avait constitué une région démesurée. Les pensées de Nicole s'emballaient.
C'est fascinant. Une civilisation colonise des centaines d'étoiles, puis en un clin d'œil, voilà qu'elle disparaît. La leçon est très claire. Il existe pour chaque chose un début et une fin. L'immortalité n'est qu'une vue de l'esprit.
Elle regarda autour d'elle. Un motif cyclique prenait de l'importance comme des régions de plus en plus nombreuses abritaient les lumières indiquant l'apparition de nouvelles civilisations spatio-pérégrines. Mais elles ne brillaient en moyenne qu'une seconde, et les rares qui envahissaient les systèmes voisins ne se rapprochaient jamais d'un autre secteur illuminé.
L'intelligence et la spatio-pérégrination existaient dans notre secteur de la galaxie avant la formation de la Terre. Mais très peu d'êtres ont établi des contacts avec leur père. La solitude et donc un autre principe de l'univers, ou tout au moins de notre univers.
8 minutes plus tard, l'aigle arrêta la projection.
Nous voici à 10 millions d'années de l'instant présent. Sur Terre, les bouleversements climatiques dus à l'impact d'un astéroïde ont depuis longtemps fait disparaître les dinosaures, ce qui a permis aux mammifères de proliférer. Les premières lueurs de l'intelligence commencent à apparaître chez certaines de ces créatures.
L'aigle s'interrompit et elle le regarda avec tristesse.
Qu'avez-vous ?
Sans qui l'extraterrestre ?
Notre univers atteindra-t-il l'harmonie ou ne sera-t-il qu'un des nombreux sujets d'expérience qui permettent à Dieu de rejeter certains modèles parce qu'ils sont imparfaits ? Pourquoi m'interrogez-vous sur ce sujet ? Tout ceci est un excellent catalyseur. Des douzaines de questions se bousculent dans mon esprit, mais comme je ne puis toutes vous les poser, j'ai opté pour la plus importante. Prenons la situation que nous avons sous les yeux,
ajouta-t-elle.
Même après 10 milliards d'années d'évolution, les lueurs sont toujours dispersées. Tous les peuples qui ont entamé leur expansion ont disparu. Pour que cet univers puisse atteindre l'harmonie, il faudrait que des lumières signalant la présence d'êtres à l'intelligence développée illuminent tôt ou tard la plupart des systèmes de toutes les galaxies qui le composent. Si j'ai correctement interprété l'acception que Saint-Michel donne au terme « harmonie », il me semble que c'est le cas. Où est le soleil ?
Là, fit l'aigle en utilisant le pointeur laser. Nicole regarda ce secteur, puis le reste de la salle.
Il y a 10 millions d'années, il y avait environ 60 espèces spatio-pérégrines dans les 10 000 systèmes environnants. Si je ne me trompe pas sur la signification de ce groupe de lueurs vertes, l'une d'elles était originaire d'une planète relativement proche de la nôtre et s'est étendue pour englober 20 ou 30 étoiles.
C'est exact. Puis-je reprendre la projection à une vitesse réduite ?
J'aimerais au préalable étudier cette configuration. Tout a été trop rapide pour que je puisse en assimiler pleinement le sens.
Elle fixait l'amas de points verts. Sa bordure n'était qu'à 15 années-lumière du système solaire. Elle fit signe à l'aigle de continuer et il lui annonça qu'il visionnerait seulement 200 millénaires par seconde. Les lueurs vertes s'étaient encore rapprochées de la Terre lorsqu'elles disparurent.
« Stop !»
cria Nicole. L'aigle interrompit la projection et la regarda intriguée.
Que sont devenus ces êtres ?
Demanda-t-elle.
Je vous en ai parlé il y a 2 jours. Les manipulations génétiques ont entraîné leur perte.
Ils avaient presque atteint la Terre. Que notre histoire aurait été différente s'ils l'avaient fait. Après avoir découvert le potentiel des proto-humains d'Afrique, il leur aurait apporté ce que les précurseurs ont accordé aux octopodes.
Elle revit Saint-Michel leur expliquer les buts de la création de l'univers devant l'âtre du cabinet de travail de Michael et de Simone.
Puis-je voir le début ?
Le début de quoi ?
De tout. L'instant où tout a commencé, le point de départ de l'évolution.
C'est impossible,
répondit l'aigle après une brève hésitation.
Nous ignorons ce qu'il y avait avant. Nous supposons simplement qu'une forme d'énergie était présente, étant donné que c'est de sa transformation que résulte la matière.
Nicole regarda autour d'elle.
Les ténèbres, partout, et quelque part, si ce terme peut convenir, un créateur.
Se peut-il qu'il ait puisé cette énergie en lui-même ?
Nous savons seulement que la destinée de tous les éléments de l'univers a été déterminée à cet instant initial. Les conditions dans lesquelles a eu lieu cette transformation ont déterminé tout son avenir.
Une lueur aveuglante emplit la salle. Nicole se détourna et se couvrit les yeux.
« Tenez !»
dit l'aigle, en prenant dans sa bourse des lunettes qu'il lui tendit.
« Pourquoi n'atténuez-vous pas cet éclat ? Pour vous donner une idée plus précise de ce qu'ont été ces premiers instants, regardez, j'ai arrêté l'image à 10 puissance moins 40 secondes après la création. » L'univers n'existe que depuis un temps infinitésimal, mais il est déjà riche en matière. Cette lumière provient d'un minuscule grumeau de bouillon cosmique, différent de tout ce que nous connaissons et comprenons. Il n'y a ni atomes ni molécules. Les quarks, les leptons et tous leurs petits amis sont si nombreux que la masse d'un simple fragment de cette substance pas plus gros qu'un atome d'hydrogène est plus importante que celle d'un amas de galaxies actuelles. Par simple curiosité, où étions-nous, vous et moi ?
L'aigle hésita.
Nulle part, ou plutôt hors de ce modèle, dans une autre dimension. Les mathématiques de la création n'auraient pu s'appliquer s'il n'y avait pas eu à l'origine plus de 4 dimensions. Naturellement, tout ce qui deviendra plus tard notre univers dans le continuum de l'espace-temps est contenu dans le point minuscule qui diffuse cette lumière insoutenable. Sachez que dans la réalité, la chaleur était 10 trillions de trillions de fois plus importante que celle de l'étoile la plus brûlante de l'univers actuel. L'échelle n'est pas non plus respectée. Dans un instant, la simulation reprendra et nous verrons l'amas de radiation compacte exploser et entrer en expansion à une vitesse impensable. Pendant la reproduction de ce que nous appelons l'ère de l'inflation, les dimensions présumées de cette salle augmenteront elles aussi. En fait, pour voir la structure de l'univers à 10 puissance moins 40 secondes, il faudrait disposer d'un microscope très performant.
Nicole regarda la source de lumière aveuglante.
Ce minuscule globule de matière serait la graine de tout ce qui existe. C'est de ce ragoût microscopique de particules subatomiques que viennent toutes les galaxies que nous avons vues un peu plus tôt. Pas seulement ces galaxies,
dit l'aigle.
Cette soupe surchauffée contient tout l'univers.
Le petit noyau entra brusquement en expansion. Nicole avait l'impression qu'il cinglerait son visage d'un instant à l'autre. Des millions d'étranges structures se formèrent et disparurent devant ses yeux. Elle vit avec fascination la matière changer de nature à plusieurs reprises, passant par des stades de transition aussi bizarres que le globule initial.
« J'ai accéléré le défilement, »
dit l'aigle.
Tout physicien pourrait identifier ce que vous voyez à présent, environ 1 million d'années après la création. Des atomes simples se sont formés, hydrogène, hélium, etc. De tous les éléments chimiques abondants, c'est le lithium qui a la masse atomique la plus importante. La densité de l'univers équivaut approximativement à celle de l'atmosphère terrestre et la température a chuté à 100 millions de degrés.
Il dirigea la plateforme entre les lumières, les blocs et filaments.
Si nous avions un esprit suffisamment développé, il nous suffirait d'analyser la matière initiale pour savoir quels blocs deviendront des amas galactiques. C'est à ce stade qu'est apparu le premier moniteur, le seul intrus dans ce processus naturel. Il était impossible de l'envoyer plus tôt dans cet univers. Observer l'instant de la création aurait altéré ce qui en résulterait.
L'aigle désigna une minuscule sphère métallique au cœur d'énormes conglomérats de matière.
Ce moniteur galactique se trouvait dans une autre dimension. Le Créateur l'a transféré dans notre continuum afin qu'il observe tout ce qui s'y passe et crée des sous-systèmes chargés de récolter des informations pertinentes sur l'ensemble du processus en cours.
Le Soleil, la Terre et les êtres humains sont le fruit de l'évolution naturelle imprévisible de cet univers ?
Dit lentement Nicole.
Le point nodal, Rama, vous et Saint-Michel avaient été créés par des machines conçues par ce moniteur galactique.
Elle regarda de toutes parts, puis se tourna vers l'aigle.
On aurait pu prédire que vous existeriez un jour peu après la création, alors que l'humanité résulte d'un processus mathématique si pervers que nul n'aurait pu se douter que nous apparaîtrions il y a seulement 100 millions d'années, soit à peine 1/100 du temps écoulé depuis.
Elle secoua la tête, puis agita la main.
Entendu,
fit-elle.
Ça suffit. J'ai eu ma dose d'infini.
La salle s'assombrit, à l'exception des petites lumières du plancher de la plateforme.
Qu'avez-vous ?
Demanda l'aigle, en remarquant son expression.
Je ne sais pas. Je suis triste, comme si je venais de perdre un proche. Si j'ai bien compris, nous sommes bien plus importants que vous, ou même que Rama. Il est improbable que des créatures nous ressemblant apparaissent ailleurs, que ce soit dans cet univers ou un autre. Nous sommes un des produits fortuits du chaos, alors qu'on doit trouver des êtres tels que vous dans tout ce que le Créateur est censé observer.
Il y eut un silence, puis elle ajouta
« Après avoir entendu Saint-Michel, j'ai dû imaginer que des voix humaines participaient à l'harmonie que Dieu recherche. J'ai désormais conscience qu'il n'y a que sur terre que nos chants. »
Une brusque douleur pectorale la fit taire. Elle lutta pour respirer, certaine que la fin était imminente. L'aigle l'observait sans mot dire. Quand elle reprit finalement sa respiration, elle lui dit d'une voix hachée
« Vous m'avez parlé, en déjeunant, d'un lieu où je pourrais voir ma famille et mes amis. »
Ils échangeaient brièvement quelques propos à bord du véhicule, lorsque la souffrance redevenait momentanément supportable. Ils savaient que la prochaine crise serait fatale. Ils entrèrent dans une autre salle du module de la connaissance. Les lieux étaient circulaires, avec en leur centre un espace où l'aigle pouvait se tenir à côté du fauteuil roulant. Ils s'y rendirent et regardèrent des humanoïdes reconstitués des événements de la vie d'adulte de Nicole, dans 6 théâtres séparés, disposés autour d'eux. La vraisemblance des scènes était sidérante. Non seulement ses proches étaient en tout point semblables à ce qu'ils avaient été à l'époque en question, mais les décors étaient absolument fidèles à la réalité. Cathy faisait du ski nautique sur le lac Shakespeare en riant et agitant la main avec son insouciance habituelle. Ailleurs se déroulait la représentation théâtrale que la petite troupe de Ramadeux avait donnée pour célébrer le 1000e anniversaire de la mort d'Aliénor d'Aquitaine. En voyant Simone à 4 ans, Cathy à 2, Richard et elle encore jeunes et vigoureux, elle eut des larmes aux yeux. « J'ai eu une vie extraordinaire », se dit-elle. Elle fit avancer son fauteuil sur cette scène et l'action s'interrompit. Elle se pencha pour prendre le barde, le petit robot que Richard avait créé pour distraire ses filles. Il était bien concret.
« Comment diable réalisez-vous cela ?»« Technologie avancée », répondit l'aigle. Je ne pourrais vous fournir d'explications. Si j'allais là où Cathy fait du ski nautique et que je plonge la main dans le lac, l'eau me semblerait-elle réelle? Absolument.
Elle sortit de scène avec le pseudo-robot. Un autre barde se matérialisa aussitôt et la reconstitution reprit.
J'avais oublié tes petites créations de génie, Richard.
Son cœur lui accorda quelques minutes supplémentaires pour lui permettre de profiter de ces extraits de sa vie. La naissance de Simone l'emplit de joie. Elle revécut sa première nuit d'amour avec Richard et elle revit le bestiaire fantastique des créatures qui les avaient attendues au-delà des portes de la cité d'Émeraude.
Puis-je revoir n'importe quel épisode de ma vie ?
Demanda-t-elle en ressentant une brusque contraction dans sa poitrine.
À condition qu'il se soit produit dans Rama et que je puisse le retrouver dans les archives.
Elle hoqueta. La fin était proche.
S'il vous plaît, j'aimerais assister à ma dernière conversation avec Richard, juste avant son départ.
Tu n'en as plus pour longtemps, lui affirma une voix intérieure.
Elle serra les dents et tenta de se concentrer sur la scène qui venait d'apparaître devant elle. Son mari lui expliquait pourquoi il devait accompagner Archie au Nouvel Éden.
Je comprends,
disait la pseudo-Nicole.
Je comprends,
se répéta la véritable Nicole. C'est la déclaration la plus importante qu'on puisse faire à quelqu'un. La clé de la vie est la compréhension. Et je comprends désormais que je suis un être mortel dont l'heure du trépas a sonné.
Une autre douleur intense s'accompagna du souvenir fugace d'un vieux poème latin.
Timor mortis conturbat me. Mais je n'aurai pas peur, car je comprends.
L'aigle l'observait attentivement.
J'aimerais voir Richard et Archie,
fit-elle avec difficulté.
Leurs derniers instants dans la cellule, juste avant l'arrivée des biotes. Je n'aurai pas peur, car je comprends. Ainsi que mes enfants et le docteur Bleu.
La salle s'assombrit. Les secondes s'écoulaient lentement. La douleur était insoutenable.
Je n'aurais pas peur.
La lumière revint. Richard et Archie étaient dans la geôle. Elle entendit la porte extérieure s'ouvrir.
Arrêt sur image, s'il vous plaît,
balbutia-t-elle. Ses enfants et le docteur Bleu se trouvaient sur la gauche. Elle réussit à se lever et à marcher sur quelques mètres pour se retrouver parmi eux. Elle pleurait, tout en caressant une dernière fois les visages de ceux qu'elle aimait. Ses ventricules cédaient. Elle pénétra en titubant dans la cellule, et étreignit le double de son mari.
« Je comprends, Richard, »
dit-elle. Elle s'agenouilla lentement, puis se tourna vers l'aigle.
« Je comprends, »
répéta-t-elle en souriant.
« Et la compréhension est le bonheur, »
conclut-elle.